L'enregistrement. Découpé, non, c'est bon.
Donc c'est enregistré. Donc il y a peut-être des choses que vous ne pourrez pas dire. L'enregistrement, je le fais valider par l'auteur. Et après, si vous voulez réécouter ou passer à quelqu'un qui aurait voulu venir et n'a pas pu, etc., vous me faites signe. Ou alors à la fin, vous me laissez votre mail, par exemple, et je vous le transfère après validation de l'auteur. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, je vous ai parlé du dernier rendez-vous de l'année. Ce sera en décembre avec Christian Verdet. En attendant, on reçoit Cédric Fernandez, auteur de bande dessinée, dessinateur, illustrateur et scénariste aussi à 16 heures. Cédric Fernandez, il est né la même année, l'année de la nationalisation américaine d'Arnold Schwarzenegger. Je ne sais pas si vous saviez. D'Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger a été nationalisé l'année de naissance de nationalisé américain, l'année de naissance de Cédric Fernandez. Après, l'utilité de cette information.
Si, moi, je vais m'en servir.
Ça peut servir. L'année de la guerre Iran-Irak. L'année aussi du fameux discours de François Mitterrand. À Bruxelles concernant l'installation des missiles Pershing en Allemagne de l'Ouest. Vous vous rappelez de ce passage, c'est forcé de constater que les missiles sont à l'Est et les Pacifiques à l'Ouest. Voilà. Et puis, c'est l'année de la mort d'Hergé.
Ah oui.
Réincarnation.
D'Hergé.
Bah. Et de la naissance de Kim Jong-un. C'est à peu près le même âge que Kim Jong-un. Voilà. Votre parcours d'artiste ou de dessinateur, on va voir si on peut mettre des nuances là-dedans, commence avec une école de publicité. J'ai vu ça dans votre CV. C'était où et pourquoi une école de pub?
En fait, moi, à la base, je voulais vivre du dessin. Et ce que j'ai cherché à faire, c'est trouver ce qu'on appelle un vrai métier qui aurait une base où je pourrais m'amuser avec le dessin dedans. Et la publicité, c'était ce qui ressemblait le plus pour moi à un métier où je pourrais utiliser ça.
Ouais, ouais.
Et du coup, j'ai fait effectivement 4 ans là-dedans. Alors, publicité, communication graphique, c'est...
Oui, d'accord, oui, c'est pas que pub, ouais.
C'est pas de la pub, la pub.
C'était où ça ?
C'était à Saint-Étienne.
À Saint-Étienne,
ouais, ça va. Saint-Étienne. Après, j'ai enchaîné sur une faculté d'art plastique, j'ai fait une licence, pareil, à Saint-Étienne. Où là, par contre, c'était plus pour vraiment travailler le dessin et les différents arts, en fait, tout simplement. Parce qu'en fait, à la fac, en licence, ce qui est bien, c'est qu'on touche un peu à tout. On rentre souvent pour le dessin et on va faire de la photo, de la vidéo, de la gravure. On va toucher aussi au son, à plein de choses. Et donc c'est super.
Et vous avez touché à tout ça, justement, ouais, pendant ce cursus?
Ouais, d'accord. Ouais,
okay. Et par rapport à vos envies, enfin bon. Et du coup, pourquoi avoir choisi ces écoles? Pourquoi le dessin? Parce que vous aviez une aptitude à ça et quelque chose qui s'est passé où on vous disait tu dessines super bien, continue, enfin qu'est-ce que...
En fait, comme tous ceux qui font du dessin, en fait, moi je pense que c'est pas tant je sais pas si on peut parler d'aptitude, mais moi je pense que c'est peut-être une sensibilité qui a quelque part un peu plus peut-être au niveau de l'observation des choses. Enfin, je le traduis comme ça.
Oui, oui.
Et après, il y a ceux qui... Parce que tous les enfants dessinent, pas petits, tout le monde dessine. Et moi, j'imagine que dans ma tête, il y en a qui continuent et il y en a qui s'arrêtent. Et je pense pas que j'étais forcément un très bon dessinateur. Enfin, voilà, il y en avait qui étaient meilleurs que moi, même à l'époque. Donc, il y en a qui vient d'arriver là. Et après, simplement, moi j'ai continué un peu plus, et quand on continue, c'est comme la pratique d'un instrument de musique, je fais souvent ce parallèle-là. C'est-à-dire qu'en fait, on apprend les gammes, les bases, et au fur et à mesure, à force de pratiquer, on évolue. Et voilà, c'est ça. Et en fait, moi j'ai pas arrêté de pratiquer. Parce que aussi, comme beaucoup de dessinateurs, d'écrivains ou de personnes même qui font de la musique, moi j'ai un côté où j'aime bien la solitude aussi, et j'aime bien être seul avec moi-même.
Il ne faut pas avoir peur de la solitude quand on fait ce genre de travail.
Et donc moi, ça me permettait aussi de m'isoler, mine de rien, et puis une forme de méditation quand on dessine. Et donc ça, moi, ça me plaisait bien, je continue là-dedans.
Ouais. Les écoles que vous avez faites par rapport au projet que vous aviez, elles vous ont apporté franchement quelque chose, enfin techniquement, je ne sais pas, quel seuil vous avez franchi grâce à ça? Parce que l'enseignement académique par rapport à la bande dessinée, il y a toujours un petit décalage, on n'est pas...
En fait, pour la bande dessinée pure, moi de toute façon, ce n'était pas des écoles de bande dessinée,
donc
ça ne m'a pas servi à grand-chose. Par contre, pour ce qui était infographie, publicité, ça m'a vraiment permis plusieurs choses, notamment d'apprendre les logiciels. Nous, maintenant, on utilise beaucoup de logiciels comme Photoshop, et tout. Pas forcément pour le dessin, mais pour vraiment, pour finaliser, pour recadrer des choses, pour même mettre en page des bandes dessinées quand on a besoin de le faire nous et que l'éditeur n'est pas disponible ou quoi. Donc en fait, pour ces choses-là, ça m'a vachement servi. Et puis après, il y a aussi même des bases, des choses qui sont par exemple des bases de compréhension de la couleur, des bases de mise en page, des bases en publicité, dans l'école de publicité, où on apprenait beaucoup les jeux typographiques. Et ne serait-ce que ça, la typographie, c'est dans une BD, la typographie, c'est intégré au dessin, quoi. Ça fait partie du dessin. Et donc, si on met la typographie, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est simplement le dessin de la lettre. Et donc ça, c'est une importance par rapport à la finalité globale de la page. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris là-bas. Et après...
Tu peux commencer à les arriver.
Et après, pour la fac d'art plastique, là par contre c'était, alors, il y avait un peu plus de dessins, parce qu'on avait des dessins nus, des dessins d'observation, de nature morte, mais c'était pas une grosse partie finalement dans l'apprentissage à la faculté. Il y avait beaucoup de théories, ce qui fait que la théorie c'est intéressant parce que ça nous fait réfléchir sur des choses qu'on connaît pas forcément, et surtout on s'ouvre, ça nous force à nous ouvrir vers des artistes, vers des pratiques on ne serait pas allé de nous-mêmes.
Oui.
Et ça, c'est ce qui m'a le plus plu.
Ah oui.
C'est-à-dire d'aller voir. Moi, en fait, quand je dessinais par rapport à quelques illustrateurs que j'aimais bien, ou des auteurs de BD que j'aimais bien, et on a tendance à regarder que ces personnes-là. Et tout le monde a un peu ce défaut-là, au moins au début, d'aller que vers ce qu'on aime. Et enfin, ce qu'on aime, ce qu'on croit aimer, ou en tout cas ce qu'on connaît. Et le fait de nous forcer un peu, de nous ouvrir à d'autres choses qu'on ne connaît pas ou vers lesquelles on ne serait pas allé naturellement, ça en fait c'est une richesse incroyable. Et moi pour ça, ces années de fac...
Ça vous a beaucoup apporté, là. Ouais. D'accord. Et du coup, pourquoi la bande dessinée? Qu'est-ce que la bande dessinée apporte que les autres formes n'apportent pas? Qui vous conviennent à vous, probablement?
Eh ben, en fait, simplement la bande dessinée, ça permet de raconter une histoire là où une illustration ne fait pas forcément. Voilà, dans une illustration, on peut raconter, on peut avoir un schéma narratif. Par exemple, les tableaux 18e ou quoi, on peut avoir une narration à l'intérieur, mais la plupart du temps, ça va être très réduit. Et dans une bande dessinée, ça permet, on a vraiment cette capacité de raconter une histoire. Et ça donne une autre notre envergure au dessin. Parce qu'on n'est pas là simplement pour faire une belle image, on est là pour servir une histoire. Et en fait, ça me plaisait beaucoup. Et ça, après, il y a plein de volumes, il y a plein de niveaux dans la création qui sont intéressantes. Le fait d'appréhender la narration, tout ce qui est la gestuelle, tout ça, c'est des choses qu'on doit savoir faire en bande dessinée. On n'est pas forcément obligé de
connaître pour les autres formes. Et ça, on y reviendra parce que je pense en dernière partie, justement, on va essayer de cerner un peu les caractéristiques techniques de la bande dessinée, ce que c'est, comment, ce que ça implique, etc. Est-ce que c'est notamment les sciences d'art plastique, etc. C'est le moment où vous intégrez. Il y a une association d'auteurs de BD qui se crée dans la Arouane. Mm-hmm. C'est parallèle ou vous aviez déjà fini votre cursus là?
Non, c'est parallèle.
C'est parallèle.
Moi d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'à la base, moi je m'orientais vraiment sur l'illustration, juste sur l'illustration. Parce que je connaissais pas tellement la bande dessinée. Et j'en disais un petit peu quand j'étais petit et tout, pas plus que ça. J'étais pas non plus. Je suis pas très intéressé par ça. Et en fait, c'est des copains, il y en a quelques-uns qui sont là, qui ont fondé cette association et qui, dans cette association, ils faisaient un fanzine. Un fanzine, c'est un magazine de bande dessinée amateur. Et ils avaient besoin de dessinateurs. Et donc, en fait, ils m'ont dit nous, on cherche des dessinateurs, toi, tu dessines, viens en faire avec nous. Et au début, je suis bande dessinée, moi, j'y connais rien. En gros, de toute façon, on est entre potes et tout. Donc, viens, si ça te plaît.
Sans danger.
Voilà. Je viens mercredi matin, on avait gagné le mercredi matin. Non, les samedi matin, pardon. Je viens, puis on va. Et en fait, ça m'a carrément plu. Quoi. Alors déjà, l'ambiance, parce que on était pas mal. On était vingtaine.
Oui, une quinzaine. Il y avait au moins 12-13 dessinateurs de bande dessinée.
C'est ça, des scénaristes. Il y avait des personnes qui écrivaient aussi des articles, qui faisaient des critiques de bande dessinée dedans. Et en fait, tout ça, ça faisait qu'on partageait quelque chose, on créait tout ça, un truc tous ensemble, et c'était super sympa. Quoi. Et donc, en fait, j'ai découvert la BD vraiment par rapport à ça. Et là, en fait, à ce moment-là, ça m'a vraiment plu et je suis parti dedans à fond. Et c'est à partir de là où, voilà, après, je me suis axé là-dedans. Et pour la faculté, c'est un copain qui parle là, qui, à un moment donné, j'arrivais à la fin de l'école de pub, d'infographie, et en fait, on me demandait qu'est-ce que tu vas faire plus tard, après cette école. Je dis, je sais pas, j'ai pas forcément envie de chercher du boulot. Et tout. Il dit, viens à la fac, lui, t'es déjà à la fac. Via la fac d'art, tu vas voir, on dessine et tout, c'est bien, il y a des trucs à apprendre, c'est cool, et puis il n'y a pas trop d'horaire, ça va, c'est pas mal. La question que je lui ai dit à ce moment-là, c'est, il y a des maths? Il m'a dit, non, oh, c'est bon, je vais m'en faire. Donc en fait, on est parti comme ça. Et ouais, c'était vraiment chouette. Quoi.
D'accord, oui, donc la bande dessinée, c'était pas vraiment...
Non,
d'accord. À l'époque, vous avez participé à un album collectif qui s'appelle À nos pères. Vous parlez de votre père. Et si j'ai bien compris, il était artisan.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Et vous voyez, ça consiste à fabriquer notamment des selles, la sellerie, non c'est...
Ouais, pour l'éducation. Ouais, et aussi, après, ils faisaient des comment on dit, c'était une sorte de frein pour des presses d'industrie.
D'accord.
Et, ouais. Tout
avec
en
des
cuir,
fruits, et tout ça. Et tout. Ouais. Et je parle de ça parce que je me suis demandé s'il n'y avait pas un héritage à aller chercher de ce côté-là au niveau de l'artisanat et de votre rapport au dessin, au travail de la BD. La BD, d'abord, j'ai quand même le sentiment, on verra tout à l'heure, on a la chance d'avoir pas mal de dessinateurs de BD, ça, que c'est davantage un artisanat que d'autres formes d'art. En tout cas, que ça, parce qu'il y a toujours ce débat entre art et artisanat, mais là, la bande dessinée, c'est une des formes d'art, c'est un art, incontestablement, qui est le plus au contact avec la problématique des artisans, de l'élaboration de quelque chose, etc. Ça vous dit ça, enfin, vous êtes d'accord avec ça?
Moi, je pense toujours que c'est de l'artisanat. En fait. Après, pour moi, il y a quelques auteurs qui sont des artistes, quelques-uns qui vont aller plus loin que la simple narration, le simple dessin et tout, parce qu'ils sont dans la recherche. Mais la plupart, la grande majorité des bandes dessinées, ouais, moi je suis d'accord que c'est de l'artisanat. Ce que je fais, c'est de l'artisanat.
Oui, ce que vous faites, c'est de l'artisanat. D'accord. Okay. Donc après Iconé Imago, Oui, je pense que c'était après Icon et Imago, donc cette association d'auteurs de BD dont on parlait tout à l'heure. En fait, là, vous entrez vraiment dans le métier. Enfin, vous avez une première production. Alors peut-être que c'était ça d'abord. Je ne sais pas si c'est dans l'ordre. Non, c'est le Vol des Anges.
Ouais, le Vol des Anges.
D'accord. Alors le Vol des Anges. Donc une série en trois volumes chez Zephyr BD.
Quatre volumes.
Ouais.
Et c'est chez Zephyr, ouais, qui a été racheté par Dupuis.
Comment s'est passé pour arriver à, enfin pour passer de amateur talentueux dans un fanzine de BD local à oui, il faut le dire, hein, à auteur professionnel à qui on confie quand même une série entière, c'est pas rien. Comment ça s'est passé?
En fait, simplement, c'est pour moi le passage le plus difficile quand on commence dans ce métier-là, c'est réussir à se faire éditer par des éditeurs, des vrais éditeurs et tout, qui vont mettre de l'argent dedans, qui vont mettre en place toute la
distribution, etc., la presse.
Et ça, en fait, il faut envoyer des dossiers. Donc faire des dossiers, ça veut dire... quand on présente un dossier à un éditeur, on fait 2-3 pages de dessin, on a un scénario qui est quasiment tout écrit, en tout cas un synopsis qui est tout écrit. Un synopsis, c'est le scénario un peu en condensé. Et une note d'attention et tout. Et on envoie ça aux éditeurs. Et après, tout le jeu, c'est de les séduire. Tout le jeu, c'est de leur dire, bon ben voilà, ça c'est un super projet. Vous ne pouvez pas passer à côté, vous allez en vendre 200 000, ça va être super. Tout en sachant que s'ils en vendent 1000, on est déjà content. Mais... Et puis lui, il n'est pas dupe de ça non plus, mais c'est le jeu. Et lui aussi va nous dire, c'est super, on va en vendre des palettes, alors qu'il sait que bon... Mais de toute façon, on fait partie d'un tout, c'est-à-dire qu'il faut que lui, il imprime des BD, et il faut que nous, on vende le projet à un éditeur. Donc en fait, tout le monde fait semblant que ça marche bien comme ça. Et, ben, et donc, ça faisait déjà... quelques années que j'envoyais des projets, voilà, on a fait quelques-uns ensemble. Et au début, bah forcément, ça marche pas parce qu'on n'a pas le niveau, et parce que le trait est maladroit, parce que la narration n'est pas forcément bonne, enfin voilà, le niveau n'est pas là. Et puis, sur à mesure, bah, en travaillant, on commence à acquérir un certain niveau qui commence à être acceptable pour un éditeur, et donc là il y en a un qui croit en nous et qui va nous signer. Et donc, là, c'était le cas pour le World des Anges. Mais avant ça, j'avais commencé, je dis commencé parce que finalement, ça ne s'est pas fait, mais à reprendre une autre série chez un autre éditeur. C'était l'édition Paquet. Et en fait, on n'était pas allé au bout parce que, en fait, au bout d'un moment, simplement, j'ai plus de nouvelles de l'éditeur. Et donc, voilà. Et donc, ça, c'est des choses par lesquelles on passe souvent en tant que jeune auteur, après on est moins confronté à ça, mais voilà. Et là, Le Vol des Anges, c'est vraiment une série où il cherchait un dessinateur, il avait validé le scénario, je crois, il me semble, et donc ils m'ont fait faire des tests. Moi je leur avais envoyé un dossier, ils ont dit bon, pour ce dossier là, ça ne correspond pas, parce que c'était une maison d'édition qui faisait surtout de l'aviation. Et par contre, ils m'ont dit votre style pourrait convenir et tout, donc est-ce que vous pouvez faire un test. Donc j'ai fait 2 ou 3 pages et on dit allez, on part là-dessus. Donc on est parti sur effectivement 4 tomes.
Enfin, oui, 4 tomes, c'est pas rien.
C'est pas rien.
Il y a une relation de confiance qui s'établit là quand même.
Ouais. Ouais.
Et donc, ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. Enfin non, c'est l'histoire de l'aviation pratiquement de Blériot à Roland-Garros, en fait. Hein, c'est voilà. Jusque justement, la Première Guerre mondiale, ça s'arrête à la Première Guerre mondiale. Un petit passage par Glénat.
Ouais, un gros passage par Glénat.
Oui, un gros passage, mais là, c'est un album collectif. Donc là, vous avez fait juste un épisode, enfin une...
En fait, j'en ai fait deux.
Il y en a deux, ouais. D'accord. Qui raconte l'histoire de ce projet audacieux qui était le paquebot Normandie. Et donc, oui, vous avez fait Donc c'est des petits épisodes qui sont consacrés à des choses plus ou moins précises dans l'histoire du Normandie. Là, comment, et pour Glénat, pareil, des dossiers envoyés, comment ça s'est passé?
Non, bah là c'est pareil.
J'ai oublié de dire qu'à l'époque, là, pour le vol des anges, vous signez Rivera.
Oui, parce que je m'appelle
Là, c'était Fernandez.
C'est ça.
Oui. Qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, je m'appelle Fernandez. Alors, des Fernandez, il y en a plein. Et dans la BD, il y en a aussi plein et des forts. notamment, moi, un que j'aime beaucoup qui s'appelle Enrique Fernandez. Et en fait, je m'étais dit, je me le dis toujours d'ailleurs, en fait, si je signe Fernandez, on va dire, quand on va parler de moi, on va dire, Fernandez, le bon ou le mauvais?
Lui ou l'autre? Non, l'autre. Hein.
Et il y a des chances qu'on dise encore ça de moi, parce que, enfin, ça m'étonnerait pas, parce qu'il est vraiment très fort, hein, le mec qui est Fernandez. Et donc, du coup, je me dis, non, je vais signer autre chose, comme ça, moi, je ferai pas ce truc-là. Et finalement, en fait, au bout d'un moment, je me retrouvais plus. En fait, on m'appelait à Eva, je me retournais pas, quoi. C'est-à-dire que donc j'ai dit, bon, je reprends Fernandez et puis on verra bien comment ça se passe. Finalement, ça s'est très bien passé. Mais...
Oui. Donc Normandie, là, c'est donc vous abordez Glénat. Là, ça s'est passé comment? Ils ont repéré votre travail dans Le Vol des Anges, ou vous avez démarché aussi?
Non, c'est le scénariste qui avait vu Le Vol des Anges et qui m'avait appelé pour justement faire ça. Le projet était validé, il commençait à faire à trouver un peu son équipe, à chercher son équipe, et donc il m'avait proposé ça. Et du coup, à la base, ça devait pas être chez Glénat, d'ailleurs le projet, je ne sais plus chez quel éditeur c'était. Et au final, le premier éditeur s'était rétracté et Glénat a pris la suite. Et donc normalement, il y avait, je ne sais plus, peut-être 6 ou 7 dessinateurs sur le projet. Et donc moi, j'étais dedans. Et il y en a un, au bout d'un moment, qui a acheté l'éponge. Et le projet a failli tomber à l'eau. Et vu qu'en fait, moi, je suis un dessinateur relativement rapide. Et donc là, ils m'ont appelé en disant... Est-ce que tu serais capable d'en faire un deuxième avant dans un mois? Et du coup, il a dit ouais, aucun problème. En disant bon, alors moi je vais au Canada, j'ai mon frère qui est au Canada. J'avais un voyage au Canada dedans, j'avais plein de trucs. Et je me suis dit ouais, aucun souci, je le fais, il n'y a pas de problème. Et donc ça a été panique pendant 3 semaines, mais j'ai rendu le truc à l'heure. Et voilà. Et du coup, ça m'a fait gagner beaucoup de points auprès de Glénat.
Les éditeurs aiment bien ceux qui assurent, quoi.
Ouais, ouais.
Les gens qui assurent.
Ah oui, d'accord, t'es capable de faire ça, mais c'est bon, okay. On note.
Et pour revenir au niveau de pour l'expression assurée, voilà. Je pense que ça a été repéré quand même la je ne sais pas si on peut parler de la virtuosité, mais en tout cas la qualité des combats aériens, notamment dans ces séries-là, ça a été, je pense. Ça fait partie des choses remarquables. Peut-être que voilà, vous pouvez faire tourner et regarder. Ça c'est l'aviation jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ouais, c'est l'histoire de l'aviation. Avec des personnages qui incarnent ça. Hein, et en tout cas, je pense que ça a dû être repéré. Vous allez nous expliquer comment c'est passé, puisque après, et là c'est chez Glénat. On vous confie une nouvelle série qui s'appelle Faucheur de vent. Ça a enchaîné là.
Ça a enchaîné.
Vol des anges, Faucheur de vent.
Saint-Exupéry d'abord.
Ah, il y a eu Saint-Exupéry avant.
Il y a eu Saint-Exupéry.
Ah, pardon.
Enfin, en fait, ça a été. J'ai fait.
Peut-être un album.
Saint-Exupéry le tome 1. Rêve de gosse, après Saint-Exupéry tome 2, après Faucheur de vent, Saint-Exupéry tome 3. Enfin, en fait, je faisais plusieurs séries en même temps. Donc, j'alternais un peu les albums.
On n'a pas donné de date tout à l'heure. Vous avez commencé, je sais pas, le Vol des Anges, c'était donc votre carrière professionnelle. C'était quelle année?
Je ne sais plus.
Alors, je crois que c'est 2006.
2006. Ah, d'accord.
2006, mais j'avais révisé mes notes. 2006. On est en 2023. Et vous annoncez le nombre d'albums que vous avez fait.
Presque 30, soit.
Combien?
Une trentaine.
Si je ne compte pas les albums jeunesse, les albums jeunesse, il faut en acheter deux. Et je ne compte pas non plus les albums où j'ai fait juste une illustration.
La BD, album BD, une trentaine. Voilà, oui, c'est aussi pour ça que j'ai invité Cédric, c'est que je pense qu'il peut parler savamment de la bande dessinée, quoi. Quelqu'un qui assure.
J'étais l'année dernière, je ne sais pas si je t'aimais, je l'allais, mais.
Oui, donc du coup, ça se recoupe un peu. Faucheur de vent et Saint-Exupéry. On va garder un peu Saint-Exupéry là pour le moment. On va parler de Faucheur de vent. Scénario de Thierry Lamy. Là aussi une série. En combien de volumes? Moi, j'en ai trois.
Trois,
trois volumes. Bon, vous commencez à être repéré comme dessinateur d'avions.
Ouais.
Vous avez une appétence particulière pour les avions ou,
voilà.
Mais il y a quand même des scènes de combat aérien, je pense qu'il.
C'est vous qui dessinez.
Ouais.
Ah oui, on a affaire aux dessinateurs. Je sais pas si ça a été clair au départ, mais donc
c'est. En fait, c'est pas moi qui fais la couleur.
Voilà, la couleur, on en parlera tout à l'heure. Quand on parlera de la technique, on parlera de la couleur. Je vais vous faire passer. Là, ça se passe par contre à la fin de la Première Guerre mondiale. Le scénario ménage des tensions. C'est la fin de la Première Guerre mondiale, puisque vous voyez sur la couverture le personnage, un des personnages principaux qui était ce qu'on appelait une gueule cassée. Hein, c'est quelqu'un qui a déjà subi au combat. Un accident, enfin voilà, qui a été défiguré, d'où ce masque de cuir, qui est un personnage assez charismatique et assez personnage puissant, disons. Et puis un pilote plus jeune, fanfaron un peu, enfin voilà, il y en a comme ça. En général, pendant la guerre, ils vivent pas longtemps ceux-là, donc là, ils vivent un peu longtemps. Bon. Et puis évidemment un personnage féminin pour créer. L'attention nécessaire, la belle Gabrielle qui ménage l'attention entre ces, qui fait un trio, et donc du coup bien sûr il y a de la tension, on n'est pas toujours dans Jules et Jim. On va parler un petit peu de la doc. Comment vous avez fait vous y connaissez maintenant en avion?
Là, vous commencez à avoir. Je ne suis pas un expert, mais
une bonne.
Je sais faire ça. Oui, mais par exemple, je ne connais pas du tout les termes techniques, les modèles. Enfin, les modèles, ceux que je dessine, forcément, je les apprends. Mais en fait, dans la BD d'aviation, c'est une BD un peu particulière. Et c'est comme la BD d'automobile ou quoi. Généralement, c'est des gens qui sont férus de ça. Et donc, ils connaissent tout. Et ce qui était marrant, c'est que quand je faisais ces albums-là, forcément, on allait en dédicace dans des fois, il y avait des groupes d'auteurs qui faisaient que de l'aviation, et donc on mangeait tout ensemble.
C'était des connaisseurs.
Et eux, ils connaissaient tout. Les modèles de casque, les numéros de série des moteurs, quand est-ce qu'ils ont changé les
ballons.
Et moi, je connaissais rien. Et donc, je me sentais un peu seul des fois dans les repas. Et donc voilà, en fait, j'ai surtout appris à faire semblant de connaître. Mais après, sur la documentation, par contre, ça demande d'être hyper rigoureux. Et donc, je ne connais pas, mais par contre, comme tout, je me renseigne. Et donc, pour ça, par exemple, on a un super musée qui est le musée du Bourget, où ils ont des vieux avions de la Première Guerre mondiale. Et là, on peut les prendre en photo sur tous les angles, etc. Puis on a quand même des quelques films d'époque où on voit quand même.
Pas beaucoup, mais
quelques-uns. On a après des films qui sont en construction, mais des fois il faut savoir prendre ce qu'il faut prendre et ce qu'il faut laisser de côté. Et puis après, les livres, tout ça, mais il faut recouper toute la doc en permanence. Quand c'est des époques comme ça, pour couper les docs tout le temps, parce qu'il y a tout le temps des erreurs de partout. Par exemple, on ne peut pas se baser que sur Internet. Ça paraît être un outil magique, Internet, sauf qu'en fait, pour ça, c'est
il y a beaucoup d'erreurs.
Il faut au moins au moins les bouquins, ça arrive qu'il y ait des erreurs dans les bouquins, mais c'est déjà un peu plus surveillé. Et puis les musées, les historiens et tout, nous on a toujours, moi j'ai toujours demandé appui à des historiens, des gens qui s'y connaissaient mieux pour être validés ou quoi. Parce que sinon, en fait, surtout à cette époque-là, par exemple, où les modèles évoluaient tous les 3 mois quasiment. C'est-à-dire qu'ils bricolaient des trucs dessus, c'était le début de l'aviation. Donc du coup, ça évolue à une...
Et ça progressait, ça. Ouais.
Et donc, si on veut pas faire d'erreur, il faut constamment bosser là-dedans.
Et vous n'en avez pas eu marre de dessiner des avions? Enfin, c'est... Ouais. Parce que là, donc vous enchaînez Faucheur de vent avec Saint-Exupéry. Ça, alors là, c'est en 3 volumes. Hein,
attends,
hein,
attends.
D'accord. J'oserais dire, ouais, une belle réalisation. Le scénario est très très bien. Et je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai le sentiment quand même que pour vous c'est une histoire particulière, quoi, Saint-Exupéry. Mmh. Il me semble que il y a peut-être, alors peut-être, ça ne veut pas dire que sur les autres vous n'étiez pas impliqués, mais j'ai l'impression qu'il y a une implication plus grande, peut-être aussi parce que je vous connais et qu'on en parle un peu, mais sur Saint-Exupéry que sur d'autres albums en général, comme ça, mais à cette période-là en tout cas, il me semble que Saint-Exupéry, l'histoire sur Saint-Exupéry avec la Fondation Saint-Exupéry, je vous ai vu aussi lancer des concours de création autour de Saint-Exupéry, etc. Il me semble que vous l'avez abordé différemment, personnellement, que d'autres projets.
En fait, Saint-Exupéry, l'histoire du projet, c'était assez marrant parce que le scénariste, donc Pierre-Romain Saint-Dizier, il habite Albi, donc ça fait Toulouse. Et Toulouse, c'est le point de départ de l'aéropostale. Et donc Saint-Exupéry, pilote de l'aéropostale. Et en fait, quand il me propose le projet, Pierre-Romain Saint-Dizier, en fait, c'est scénariste de l'album sur le paquebot Normandie aussi. Donc, vu oui. qu'on avait bien travaillé ensemble et que ça avait bien, marché, en fait, il m'a dit, moi, j'aimerais qu'on continue à bosser ensemble et vu que je suis à Toulouse, j'aimerais bien faire l'histoire de l'aéropostale. Et du coup, je réfléchis et tout. J'avais déjà fait quelques albums d'aviation, alors je voulais passer à autre chose. Et en fait, je le rappelle et je lui dis, mais en fait, l'aéropostale, oui, c'est bien, mais dans l'aéropostale, il y a Saint-Exupéry. Et en fait, Saint-Exupéry, c'est un autre... on ouvre sur autre chose.
Et c'est votre enjeu, là, oui, de récit, de... Oui.
C'est-à-dire qu'on a... c'était un philosophe, c'était un écrivain, c'est quelqu'un qui a vécu... plein de vie en une, et je pense qu'il y avait un autre message qu'on pouvait faire passer par rapport à ce personnage-là. Et donc il me dit, t'as peut-être raison, on aura peut-être accès sur Saint-Exupéry. Et en fait, je disais ça en sachant, en ayant finalement même pas tellement, moi, j'ai pas tellement conscience de l'ampleur du personnage à ce moment-là. Je savais que c'était quelqu'un qui avait fait plein de trucs, mais là. Et donc on se lance sur ce projet-là. Et fur et à mesure, effectivement, il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire qu'en fait, l'œuvre et la vie de Saint-Exupéry, elle est inspirante, en fait. Et par là, quand on fait un bouquin comme ça, il y a un truc en plus qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas simplement une histoire, on ne raconte pas simplement une histoire une biographie, une bête de sa vie. C'est-à-dire qu'on se dit, là, il va falloir quand même que ça prenne de l'ampleur et qu'on fasse passer certains messages, qu'on respecte aussi, dans un sens, l'histoire de cette personne-là. Et du coup, j'ai eu une relation un peu particulière à ces albums-là. Déjà pour la création et puis après pour la vie de l'album, c'est-à-dire qu'un album il sort et puis après il a une vie, et en plus ça c'est des albums qui continuent de vivre. Alors, quand on dit qu'ils continuent de vivre, c'est-à-dire qu'il y a des expositions, il y a des, des tirages réguliers parce qu'ils se vendent bien. Alors du coup, ils continuent de se vendre. Le tome 1, il a plus de 10 ans, je crois. Peut-être même
plus que ça. Oui, non, c'est je crois que j'ai vu 2013. Oui.
Et puis après, ça m'a fait aussi voyager parce qu'on a fait on a travaillé ça avec la Fondation Saint-Exupéry et avec les historiens de la Fondation. Et du coup, donc la Fondation, ce qu'ils font, c'est qu'ils font vivre aussi la mémoire de Saint-Ex, et ils font ça sur le monde entier. Donc en fait, moi, ils m'ont amené Singapour, Hong Kong, Rabat, enfin tout ça quoi.
Amsterdam, il n'y a pas longtemps.
Amsterdam. Voilà. Et donc, c'est marrant parce qu'on. Je continue à aller sur ces traces de Saint-Exupéry par ce biais-là. Donc, en fait, ça enrichit tout le temps. Quand on fait un bouquin comme ça, enfin, quand on fait souvent plein de sortes de bouquins, mais des bouquins historiques et tout, voilà, ça nous permet, enfin, moi en tout cas, vu que je connaissais finalement très peu, ça grandit notre culture propre. C'est-à-dire qu'en fait, on se renseigne, on lit l'œuvre, on comprend le toute l'histoire qu'il y a autour, voilà. Et en fait tout ça, ça nous enrichit vachement.
C'est pour ça que je parlais d'implication, parce que vous auriez été un fonctionnaire du dessin, un dessinateur lambda qui applique un scénario qui lui arrive, il fait le truc, etc. Et tout ça, vous n'étiez pas obligé de connaître l'œuvre de Saint-Exupéry. Et vous êtes allé jusqu'à lire ses bouquins, ben, non pas que ce soit un exploit, mais vous n'étiez pas obligé de le faire. Donc je pense qu'il y a une. Oui, vous êtes allé au-delà juste du travail qu'on vous demandait. Et je trouve que ça se sent. Et puis j'ignorais qu'en fait vous étiez aussi à l'origine du truc, puisque sinon ça allait être un truc de. Enfin, juste un récit sur l'aéropostale. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup moins inspirant comme vous dites.
C'est intéressant, mais pas.
Voilà, ça n'a pas le degré d'implication que peut apporter un personnage comme Saint-Exupéry. Alors peut-être là on est dans un tout autre projet, tout autre truc. Qu'est-ce que j'en ai fait Les forêts d'opale. C'est ça. Voilà. Les forêts d'opale. Intéressant parce que on va parler de plusieurs choses. D'abord du point de vue du projet. Je ne sais pas si vous connaissez, enfin, par rapport aux dessinateurs BD ou aux libraires spécialistes en bande dessinée, bien sûr, Les Forêts d'Opale, c'est une série à succès, scénarisée par Harley Stone, qui est un scénariste réputé, qui a connu d'autres succès. L'album que vous avez dessiné, c'est le 10e. Donc, par conséquent, il y en a eu 9 avant. Qui n'ont pas été dessinés par vous. Comment ça se passe? Non, revenons juste à cette. Là, il me semble qu'à l'époque, vous êtes dans un studio de dessin. Je voudrais juste qu'on s'arrête 5 minutes là-dessus, parce que le phénomène du studio, très courant chez les. Enfin, relativement courant chez les dessinateurs de bande dessinée. On parlait d'une solitude du dessinateur, etc. Moi, je pourrais parler de celle de l'écrivain. J'ai pas d'autres exemples de disciplines artistiques où on travaille en studio. Il me semble que c'est un phénomène vraiment de dessinateur de BD. Je vois pas de musicien travailler ensemble dans un studio, je vois pas d'écrivain sûrement pas travailler en studio à plusieurs, je vois pas de, non pas à plusieurs sur un même projet, mais.
Oui, sur des
juste l'émulation d'être ensemble dans un même endroit pour travailler. Pardon ?
C'est ouvert.
Il y a des studios. Oui, comme ça.
Là, où je travaille actuellement, oui, on est plusieurs tatoueurs avec nos clients, nos projets. Donc, il y a une émulation et il y a bien sûr un sens commun qui nous réunit, mais chacun dans nos trucs. Quoi.
Ouais, d'accord, voilà. D'accord. Mais est-ce que c'est comparable au fonctionnement?
Comparable?
Ouais, est-ce que c'est comparable au fonctionnement d'un studio?
Oui, d'accord. Au niveau des échanges.
Oui, d'accord, d'accord.
Sur des techniques.
Bon, bah voilà, donc tu m'as fait mentir.
Oui, mais j'ai découvert il y a peu.
Oui, d'accord. Mais c'est vrai que, à part, donc tatoueur, voilà. Auquel j'avais pas pensé, mais dans le domaine de l'art, je vois pas tellement d'autres exemples où. Ça s'est reproduit à Rouen, après l'association dont on parlait, il y a eu un studio qui s'appelait Sanzu. Maintenant, il y a un studio qui s'appelle L'Appart, à Rioja. C'est le fonctionnement du studio. Ça tient, comment ça fonctionne et ça tient à quoi le fait d'être en studio? Qu'est-ce que ça apporte que le travail seul n'apporte pas?
Ça apporte déjà un peu de compagnie.
Ouais, mais c'est un travail solitaire.
Et ouais, mais en fait, on discute, ne serait-ce que quand on prend un café, quand on s'arrête. Ce qui est marrant dans un studio, c'est que le studio qui avait été fait là où j'étais, c'était à Aix-en-Provence et tout, il y avait plusieurs. Il y avait des scénaristes. C'est pas que des dessinateurs, des scénaristes. Eux, généralement, ils avaient des box parce qu'ils avaient besoin d'être un peu
isolés,
vraiment. Parce que qu'on comprend, parce que quand t'as quelqu'un qui te parle, quand on a quelqu'un qui nous parle en permanence, on sort un peu peut-être de ce qu'on était en train de faire. Alors qu'en dessin, selon ce qu'on fait en dessin, pas au storyboard, parce que quand on fait un storyboard, le storyboard, c'est le petit dessin préparatoire qu'on va faire avant de dessiner vraiment les vrais dessins. Donc c'est très très. Très très rapide à faire en termes de dessin, mais par contre ça implique, c'est là où on va gérer la narration. Et donc c'est là où tout le travail intellectuel presque se fait. C'est-à-dire qu'il faut, qu'on se projette dans la tête d'un lecteur qui ne connaît pas notre histoire, il faut qu'il la comprenne juste avec le dessin. Avec donc ça, ça demande vraiment d'être en pleine réflexion. Donc là on ne parle pas. Généralement, quand il y avait des. Il y avait des séquences où on faisait tous ensemble, on faisait du scénar, chacun sur nos. Du storyboard, pardon, chacun sur nos projets respectifs, mais là c'était le silence complet. Et pas de musique, rien, parce que tout le monde était vraiment en train d'essayer de dire voilà, comment je cadre ça. Et, j'en ai apporté, je crois, du storyboard. Ouais, pour regarder si.
Ouais, donc il n'y a pas ça.
Non, je crois qu'il est dans la voiture. Peut-être que je sortirai tout à l'heure. Et par contre, après, quand on commence les autres modes, c'est-à-dire le crayonné et l'ancrage, là on peut commencer à parler. Et donc là, en fait, on continue. On dessine, on peut parler de n'importe quoi. Alors, souvent on parle du métier et puis on dit que les éditeurs ne payent pas assez, ou que les délais sont trop courts, etc. Et où on dit qu'un tel, il est nul, mais il a un succès, alors voilà, parce qu'on a un bouger le coup, voilà.
Ça, on fait. Tout le monde va dans le même sens.
Tout le monde va dans le même sens, c'est celui-là. Et. Non, plus sérieusement, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on travaille sur juste notre projet, en fait, on travaille seul et on ne voit pas nos erreurs. Et le fait de travailler à plusieurs, on s'intéresse à ce que font les autres, et du coup, l'autre s'intéresse à ce qu'on fait, et donc, il nous donne son avis. Généralement, on trouve qu'il ne comprend rien et que, franchement, il ferait mieux de bosser sur son projet qui n'est pas terrible. Mais un ou deux jours plus tard, on se dit oui, peut-être pas con, en fait, finalement. Et donc, on ne lui dit pas, mais on fait ce qu'il a dit. Et en fait, on progresse vachement plus vite comme ça. Et ça, c'est hyper intéressant. Et puis, on s'enrichit de ce que l'autre fait. Et c'est un peu. Finalement, c'est la même logique que la faculté, par exemple, où on apprenait à faire de la gravure, de la photographie, alors qu'en fait, on venait faire du dessin. Là, on était plein de dessinateurs avec des styles complètement différents, et on voyait que ce que les autres faisaient, c'était quand même pas mal. Et des fois, en fait, on pique des trucs. On dit, ah ouais, attends, j'ai ça, la façon dont tu fais ça, je vais le faire. Et puis, il y a des fois, on fait des projets ensemble, parce qu'on dit, ah ouais. On s'entend bien, donc ça serait pas mal de faire tout. Donc il y a une émission qui se fait comme ça. Et c'est super intéressant. Jusqu'à un moment donné où généralement il y a c'est par phase. Généralement les auteurs font plusieurs années dans un studio, après ils reviennent tout seuls, après ils repartent dans un studio.
Donc les forêts d'opale, la difficulté, enfin je sais pas si c'est une difficulté, l'enjeu, enfin. Les lecteurs ont connu la série avec un dessinateur. C'était quel dessinateur? C'était
Philippe Pellet.
Et donc, on vous confie Il y a un long temps entre le 9e et celui-ci.
Deux ans.
Bah, c'est pas énorme. Mais enfin, en tout cas, les lecteurs ont appris à connaître les personnages avec le style d'un autre dessinateur. Vous arrivez. Quels sont vos enjeux à vous par rapport à ça, c'est à ce qui existe, c'est imiter le style.
Alors non, c'est pas imiter le style.
Retrouver quelque chose. Enfin,
alors en fait, il fallait que je mette ma patte moi dans ce qui existait déjà, mais il fallait trouver une certaine continuité par rapport au dessin qui était avant. Et le dessin des Lopas, c'est un dessin qui est. Il y a beaucoup de choses, c'est très riche. Il y a beaucoup de travail sur les matières, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de décors. Et donc, l'idée, c'était d'essayer de garder ce côté foisonnant. Et voilà. Donc, moi, de moi-même, je me suis dit. Je vais dessiner à ma manière, mais par contre, je vais reprendre pas mal de codes de l'ancrage de l'ancien dessinateur, qui est un copain, Philippe, parce qu'on était au même studio avant. Et donc voilà, c'est ça. Et puis forcément, il ne faut pas que la coupure soit trop raide. Alors, ce qu'on m'avait dit, c'est voilà, à la base, on était parti sur plusieurs tomes, et on m'avait dit au début, tu fais. T'essayes quand même de faire en sorte que. Une continuité douce, et après, si tu veux, tu pourras.
T'affranchiras.
Voilà, c'est ça. Moi, j'ai fait qu'un tome finalement, donc j'ai pas eu le temps de m'affranchir, mais en tout cas, c'était ça la conscience. Ouais.
D'accord. Les forêts d'Opale en studio, enfin, à l'époque, vous êtes en studio. Je sais pas si on va être dans l'ordre là, mais ça fait rien. Vous avez fait un album, alors je ne l'ai pas là, qui s'appelle Gravé dans le sable. On va parler scénario maintenant un peu. Gravé dans le sable d'après Michel Bussy, qui dit quelque chose, voilà. Un auteur. Alors on parlait des gens qui ont du succès, etc., de la jalousie. Alors je ne jalouse pas Michel Bussy, mais parce que là. Enfin bref.
Il est sympa en plus.
Et apparemment, voilà, il est très sympa. Et donc, il adapte, il fait le scénario d'une adaptation de son propre roman. Gravé dans le sable.
Non, c'est pas lui qui fait l'adaptation. Non, c'est Jérôme Derache qui fait l'adaptation de son roman.
Ah, d'accord, parce que je croyais que, au niveau du texte, enfin, c'était très. Enfin, c'est quelqu'un qui savait pas écrire un scénario. Donc, moi, j'en étais resté à cette idée que. Mais donc, non, c'était pas Michel Bussy qui avait scénarisé.
Non, lui, par contre, il a suivi le projet. Moi, je l'avais régulièrement au téléphone. Et donc, il a validé toutes les étapes, etc. Mais non, c'est Jérôme Derache qui a fait la
question. D'accord, ok. Alors, tant pis pour ce que je voulais dire. Si
tu veux, on peut faire semblant.
C'est pas le genre de la maison. La tempête, alors je l'ai pas, moi. Je sais pas si vous l'avez. Parce que là, au niveau. Quand je vous présentais tout à l'heure comme dessinateur, illustrateur et scénariste, parce que même si le scénario, c'est pas votre première option, mais quand il faut. Voilà. Donc là, le scénario est de Cédric Fernandez. On peut dire rapidement de quoi ça parle. Ça va tout de suite vous parler.
Ça parle de la tempête Alex et donc des ravages qu'elle a fait dans les Alpes-Maritimes.
Okay. Bah, c'était
il y a 4 ans.
4 ans, oui. La Vésuvie, tu sais. Voilà. Et donc, c'est la description, minute par minute, pratiquement, de la nuit épouvantable que les gens ont vécue. Donc ça, c'est vraiment votre scénario. Intéressant parce qu'il vous a fallu enquêter sur place,
ouais.
Rencontrer des responsables, des sinistrés aussi, peut-être des victimes.
Ouais.
Et donc synthétiser tout ça pour faire ce scénario qui est haletant. Vraiment, on est sur les pas des pompiers, des habitants, etc. Pour ceux que ça intéresse, il y a un éditorial d'Aïs Ciotti.
Il y a même,
il faut parfois passer par des. On est bien obligé de.
Si vous voulez, j'arracherai les pages à chaque fois. Mais...
voilà, et donc, chronique d'une catastrophe. Comment vous avez abordé ça? Parce que y a un respect de la parole des sinistrés, des responsables, etc. Comment vous êtes situé? Quelle liberté vous êtes donné, vous, pour le récit?
Déjà, en fait, le fait d'aller sur place et de parler aux sinistrés, à tout le monde, en fait, aux maires, oui. aux agents, les pompiers, les gendarmes, etc. En fait, ça permet de voir en fait où est-ce qu'on peut aller. Et il y a des personnes en fait où on va sentir, on peut parler de ce qui leur est arrivé. Il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus sur la réserve, notamment des gens qui ont, je pense à des gens qui ont perdu leurs parents qui étaient dans une maison là-bas. Et en fait, on sent où est-ce qu'on peut aller. L'idée, de toute façon, moi, dans ces cas-là, ça ne m'intéresse pas de faire du sensationnalisme. Ça ne m'intéresse pas de faire quelque chose où on va montrer des gens emportés dans l'eau et tout. Donc, je garde de la pudeur parce que je me dis, si c'était ma famille, je ne voudrais pas qu'on voit ça. Il y a des façons de parler des choses tout en restant respectueux de la mémoire des gens et que ce soit des gens ou de leur bien, parce que les gens qui ont perdu leur maison, en fait, ils ont perdu leur vie. Et donc, ça, c'est important de respecter tout ça. Donc, moi, le curseur, voilà, il s'est mis tout seul. C'est-à-dire que, à force de parler aux gens, en fait, si on est un peu attentif à leur douleur, à ce qu'ils ont vécu, en fait, on sait où on peut aller, où on peut pas aller.
Le fait de leur dire que ça allait être une bande dessinée, ça a créé quoi? Une réticence? Ou au contraire?
Au contraire, ils étaient plutôt contents. Je pense qu'en fait, la bande dessinée, l'avantage, c'est que c'est pas de la photo.
Pas le côté voyeur,
c'est ça. Quelqu'un il n'y a pas le côté voyeur. Alors, côté voyeur, il peut arriver hein, par. Justement, comme je disais, si je fais quelqu'un qui existe, qui a été emporté par les eaux, et qu'on voit, on voit son cadavre d'une part, là, ça devient vraiment du voyeurisme. Quoi. Mais le dessin donne quand même un éloignement par rapport à la réalité qui fait qu'on peut quand même se permettre certaines choses. On a peut-être cette distance-là qui fait que. Il y a moins d'émotions, enfin, émotionnellement c'est peut-être moins fort que si c'était de la photo, enfin, c'est sûr. Mais... Donc voilà, ça
a impacté pas le même.
Et puis les gens ont tous, hein, je crois, tous, il y avait juste une personne qui était un peu réticente, ce qui moi personnellement me posait un petit peu problème, mais je comprenais tout à fait. Il y a un berger qui a perdu son frère son frère a été emporté vraiment par les eaux c'est un vrai berger de la montagne, c'est rustique, il ne parle pas
des œufs,
le vrai, un super personnage vraiment. Et donc je le rencontre et je lui parle du projet. Donc je voulais avoir. Et je vois qu'il est sur défensive. Autant tout le monde était vraiment content qu'on parle d'eux, en fait, qu'on parle de ce qui leur est arrivé. Lui était vraiment sur la défensive. Je le comprends et je ne pose pas trop de questions. Et donc je laisse relativement tranquille. Et je me dis, c'était une figure en fait de cette vallée-là, ce personnage qui est décédé. De ne pas en parler, en fait, on me l'aurait reproché aussi. Donc je me dis, j'attends, je réserve cette séquence plus tard, j'attends de voir comment ça se passe. Je trouverai peut-être un moyen d'en parler, mais en étant un peu plus éloigné, je trouverai quelque chose. Je fais les premières pages de l'album, On a une prépublication dans un journal, dans Nice Matin. Et cette personne-là voit les premières pages de l'album et voit le ton de la narration et voilà, de ce qu'il commençait à raconter. Et là, en fait, on a le maire du village où habitait cette personne qui nous appelle et qui nous dit bah, en fait, il y a monsieur. Ça lui a beaucoup plu la façon, ce qu'il a vu. Et donc, maintenant, il nous donne son accord pour
ça. C'est génial. Ouais. Il avait une peur d'abord et il fallait qu'il.
Ce que je comprends tout à fait. Ouais, ouais. J'étais vraiment. Et donc, je lui dis pas de problème. Enfin, c'est super, vous remercierez. De toute façon, qu'il ne s'inquiète pas, je lui envoie les pages. Et il me les valide ou pas. S'il ne les valide pas, on ne les publiera pas. S'il y a vraiment. Et donc, on a fait comme ça. Il m'a dit ah non, mais super et tout. Voilà. Il était ému même de voir tout ça et tout. Et donc, moi, après, j'étais soulagé parce que c'était le seul frein que j'avais. Parce que je ne voulais surtout pas blesser quelqu'un ou faire remonter des souvenirs.
Et après, vous avez eu des retours des sinistrés, des victimes?
Ah, bah, tous. Il y en a encore. Enfin, je vais encore de temps en temps dédicacer là-bas et tout. Parce qu'il y a eu un tome 2, j'ai oublié de l'amener là. Mais il y a eu un tome 2 et on va faire un tome 3. En fait, les gens, la dernière fois, je vais au resto j'étais à Nice, je crois. Et en fait, on parle, parce que j'étais avec mon éditeur de celui qui a édité ça, et donc on parle du projet de Paris du tome 2, je pense. Et le restaurateur, il vient, il nous sert, et puis il comprend qu'en fait on est une personne qui est. Et là, il se met à pleurer. Il dit, vous savez que cette BD-là, en fait, nous, nous a fait du bien et tout. On a revécu tout ce qui s'est passé.
Vraiment, c'est un album très fort, hein, je vous le conseille, parce que il a. Enfin, voilà, on sent une honnêteté.
Bah, voilà.
Et dans le genre récit haletant, on va parler de ça. Vous voulez ajouter quelque chose sur la tempête, Notre-Dame de Paris. Donc vous comprenez à la couverture, voilà, c'est la nuit du feu. Je vous fais pas un dessin. Donc je l'ai pas préparé ça du tout. Là aussi d'ailleurs c'est très c'est le récit de la fameuse nuit de l'incendie de Notre-Dame qu'on a tous vécu. Il y a le passage dramatique et marquant de la chute de la flèche, hein, qu'on a tous qui a été notre 11 septembre à nous. Il y a le récit de la nuit et évidemment, comme on est dans de la bande dessinée, les reconstitutions historiques ne coûtent rien, donc on peut se permettre en plus d'ajouter l'histoire de Notre-Dame. La construction, les grands moments, le sac de Napoléon, on parle de Hugo bien sûr, de la libération de Paris, etc. C'est sous l'égide de Stéphane Bern. Et les bénéfices ont été reversés à la fondation de Notre-Dame. Donc, quelque part, dans une restauration de gargouille, il y aura un peu de votre apport. Comment ça s'est passé? Je vois Arnaud Delalande, c'est quelqu'un avec qui vous aviez déjà travaillé?
Non.
Non. Par contre, Bertorello, oui.
Ouais.
Comment ça c'est qui vous a contacté?
Enfin,
qui vous
a... Attends, c'est la première fois que je bosse avec
ici. Ah oui, et après, d'accord. Okay. Qui vous a contacté pour ce projet-là?
Et ben lui, Yvon Bertorello. En fait, c'est Yvon Bertorello, c'est pas un scénariste, c'est plutôt quelqu'un qui monte des projets. Donc, c'est un peu plus comme
facilitateur.
Une production. Ouais. Et donc, c'est lui qui m'appelle. Il m'appelle en me disant bah, je connais le travail sur Saint-Exupéry et moi là j'ai un projet avec Stéphane Bern sur Notre-Dame de Paris, sur l'incendie, il venait d'avoir lieu en fait, deux mois avant ça. Et donc il dit votre dessin, vu qu'il est réaliste, tout, il correspondrait bien à ça. Et donc c'est pour ça qu'on est parti là-dessus.
C'était une réalisation enfin, rapide, il a fallu dessiner le film assez vite.
Alors, en 5 mois, 5 mois, scénario des 5 couleurs. Alors là, c'est Arnaud Delalande, le scénariste, qui a bien bossé. Il a fait un bon boulot aussi. Et 5 mois, dessin couleur, un album de 54 pages. L'équipe s'en souvient encore. Quoi. Ouais. Mais ça s'est fait, on a réussi à.
5 mois pour faire.
Ouais. Sachant que d'habitude, c'est un an, en fait, la réalisation d'un album de 46 pages. Et là, avec toute la doc qu'il y a dessus, et puis Notre-Dame de Paris, je dis tout souvent, c'est pas une cabane à dessiner. C'est-à-dire qu'il y a des moulures de partout, intérieur, extérieur, des volumes.
Les couleurs, c'est informatisé ou c'est.
Ben là, on en parlera tout à l'heure, on va en parler avec le coloriste.
Ouais. Mais oui, c'est de la couleur numérique, mais en fait, c'est. Juste l'outil qui fait que c'est numérique parce que en fait, la façon de faire c'est comme si c'était en il travaille comme c'est pas traditionnel en fait. Ouais. Et donc ouais 5 mois pour faire ça, ça a été des gros journées de boulot. Vraiment là ça a été du 8h du matin jusqu'à 1h du matin tous les jours. Mais par contre c'était super, enfin moi j'ai bien aimé, hein. c'était dur mais c'était chouette. Et pareil, c'était un projet qui était vachement. En plus, moi, l'histoire qui était sympa, c'est que quand elle a brûlé, j'étais à Paris. J'avais un rendez-vous chez Glénat, chez mon éditeur, pour le projet, ça devait être Saint-Ex. Et donc, j'étais à Paris. Et les éditions Glénat, elles ne sont pas à Paris même, elles sont. Enfin, elles étaient ici, Moulineau, mais maintenant elles ont déménagé ailleurs. Et voilà, donc, en fait, je rentrais de métro à mon hôtel. Je sors du métro et je vois cette fumée qui me passe au-dessus. Et je me dis, ouais, Paris en feu, quoi. Et là, les pompiers qui passent à côté et tout, donc tout le monde était en alerte, il y avait tout le monde qui était dehors. Moi, je sortais du métro qui était vers Gare de Lyon. Il y a un pont comme ça, on voit Notre-Dame de Paris du pont. Et là, je voyais tout le monde sur le pont et donc je vois ça. Je me dis, ah oui, d'accord, ok. Et donc c'est marquant quand on est vraiment
sur place.
Et donc c'est pour ça aussi que quand on m'a dit 2 mois plus tard, on fait un bouquin là-dessus, est-ce que ça te dit je dis, bah allez, ouais, pourquoi pas, parce que ça m'avait marqué, quoi. Et je me suis posé la question.
Non, c'était un peu la genèse. D'accord. Et comment ça s'était passé, oui. Voilà, donc, très bien. Et c'est un album tout à fait très prenant. Très voilà sur le travail des pompiers, etc. Quand j'ai vu le film de Hanno qui s'appelle, je sais plus, d'ailleurs c'est un titre un peu semblable, Notre-Dame brûle, ouais, je crois que c'est ça. Hein, pardon, non, il y a eu deux, il y en a un deux culs un peu et puis l'autre vraiment film. Et le film vraiment c'est celui de Hanno qui est très spectaculaire, vraiment très spectaculaire. Et quand on regarde le film, on revit. Enfin, j'ai revécu ma lecture pour vous dire que c'est très prenant étape par étape. Il y a un côté comme ça, mais le sujet s'y prête, hein, puisque les événements s'enchaînent. C'est très 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 bien fait pour ça. Ensuite, je crois que c'est Cortès. Après il y a peut-être d'autres.
Oui.
Il y a des albums.
J'ai fait.
Il y a Arvène, il y a d'autres choses, mais sûrement.
Arvène, c'est après. Après, je pense, après le tome de Cortès.
Ouais.
Monsieur Ozigby, j'avais fait un album comique sur rugby. Un petit album. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Je sais plus. J'en ai fait pas mal, j'ai oublié maintenant. Mais oui, après, on arrive à Cortès.
Cortès, c'est un projet qui est resté dans les cartons pendant 10 ans avant d'être accepté. Faut être prudent, hein. Faut être patient. C'est vous qui avez amené ce sujet. Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette histoire?
En fait, Cortès, l'histoire, c'est quasiment. Alors moi, moi j'aime beaucoup l'histoire. Je trouve que la fiction, souvent, n'arrive pas à aller aussi loin que la véritable histoire. C'est des fois, surtout dans le drame. Dans le drame, en fait, des fois où on va écrire un truc et on va nous dire « Non, mais là, tu vas trop loin sur souvent c'est sur des massacres ou des choses comme ça. Mais tu vas trop loin, ça c'est pas crédible. Et le problème c'est qu'en fait dans la véritable histoire, ça va toujours plus loin que ça.
Ça surprend parfois. Ouais.
C'est-à-dire que des centaines de morts, des milliers de morts, des centaines de milliers de morts, en fait, ouais, non, ça a existé, quoi. Mmh. Et l'histoire de Cortés, en fait, elle est folle pour ça, c'est-à-dire qu'elle est incroyable sur plein de... Déjà, c'est des explorateurs, ils sont allés, enfin, faut aller sur les bateaux et se taper la traversée, vous ne savez pas vraiment où vous allez arriver, vous ne savez pas vraiment ce qu'ils allaient faire, de toute façon, vous allez juste essayer de ramener de l'or, mais je veux dire...
Oui, et encore au début,
il fallait déjà savoir s'il y en avait. Et donc, ils partent comme ça, c'est même pas une vraie armée, parce que c'est des gens qui sont...
Oui, c'est des civils qui s'arment.
Des civils qui s'arment, donc avec des fois n'importe quoi. Et ils vont, voilà. Et ils vont découvrir un nouveau continent, comme ça, avec tout ce qui va être devant eux, que ce soit les Indiens, les épidémies, les bêtes sauvages qu'ils ne connaissaient pas, etc. Et donc ce côté aventure, il est déjà, juste ça, déjà incroyable. Et après, ce qui se passe sur l'histoire de Cortés, c'est assez fou, c'est un film hollywoodien, il y a tout dedans. Il y a amour, trahison, aventure, drame,
bataille,
il y a tout.
Membre constitution, et le Ticlan, comme si vous y étiez.
Des civilisations disparues.
Bah, tu l'avais dit, c'était pour faire passer. Ouais.
Et il y a un côté qui est complètement prenant, ne serait-ce que les Aztèques. Les Aztèques, en fait, on a très peu de traces de... on en a suffisamment pour arriver à faire des reconstructions, enfin des reconstitutions, mais c'est un peuple qui a... C'est une culture qui a disparu, quelques écrits. Enfin.
Oui, ça a été sauvegardé notamment par des moines, mais de même, il reste pas grand-chose, y compris à cause d'eux, d'ailleurs, aussi. Mais, vous préférez les armées mexicaines ou les combats aériens?
Là, je finis le tome 2. Je me dis que finalement, les combats aériens,
c'est pas mal non plus. Ouais. Le tome 2 apparaître, quand est-ce qu'il va
Début de l'année prochaine.
Il y a eu un petit peu de retard.
Là, sur la fin, on est en train de travailler sur la toute dernière page et puis les dernières corrections. Il a en couleur, il est en train de souffrir encore un petit peu.
Ouais,
encore pour quelques semaines.
En fait, c'est pareil, il s'amuse. On fera parler tout à l'heure. S'il veut prendre la parole, bien sûr. On va parler un peu technique, parce que je sais que pour pas mal d'entre vous, c'est assez. En contact avec des profanes, on voit à quel point la BD, ça reste encore un truc un peu mystérieux qui ressort un peu de l'alchimie. Déjà, allez, une définition de la bande dessinée.
La bande dessinée, c'est raconter une histoire avec des images fixes en servant des ellipses, en fait en servant la gouttière qui est entre deux dessins. Et en fait, tout l'art de la bande dessinée, c'est de réussir à créer l'illusion d'un rythme avec des images qui sont figées. Et moi, je traduis comme
donc
ça.
Vous êtes plus Scott McCloud que Will Eisner. En fait. Pour Will Eisner, la BD, c'est de l'art séquentiel. Mm-hmm. Et pour Scott McCloud, c'est justement c'est un art elliptique, c'est un art de l'ellipse, mm-hmm. puisqu'il y a cette fameuse gouttière, l'espace qui est entre deux images. Et il faut permettre au cerveau de faire le lien entre l'image à gauche et l'image à droite. C'est vous qui faites le passage. Et cette gouttière-là, elle peut durer une fraction de seconde, comme 3 milliards d'années.
Ouais, c'est ça.
Et voilà, c'est
tout le jeu, c'est que c'est fluide à la lecture. Ouais. Le lecteur qui ne connaît pas l'histoire, lui, ne soit pas perturbé et qu'il lise ça facilement. Et souvent, on a tendance à dire que si jamais un lecteur revient dans la case d'avant, c'est qu'on a raté quelque chose. C'est pas bon. Normalement, ça doit être fluide, la lecture doit se faire vraiment comme ça. Et c'est ça l'exercice. C'est ça qui est stimulant aussi. Moi, j'adore le storyboard pour ça, parce que l'enjeu, il est là. C'est-à-dire qu'en fait, le dessin, c'est juste l'habillage.
La mise en
quoi. Mais il y a des super BD avec un dessin très naïf qui les dessins sont faits avec un temps très limité, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose dedans. Et ça marche tout aussi bien, voire des fois mieux, qu'un dessin qui est très lourd. Alors moi, j'ai un dessin qui est assez lourd, hein, donc voilà. Mais c'est pas ça qui fait que c'est une bonne BD. Ce qui fait que c'est une bonne BD, c'est si ça se lit bien.
L'économie de la narration. Ouais.
Ça sert d'abord un scénario, ça sert d'abord une histoire.
Est-ce qu'on peut dire que le dessinateur de BD, si on prend le champ lexical du cinéma, c'est le metteur en scène, en fait, par rapport au scénario? Vous mettez en scène le scénario.
En fait, si on est dans le cinéma, le dessinateur BD, il doit faire storyboard. Donc storyboard, c'est cadrage, ce qu'on voit dans l'image, le champ. Donc metteur en scène par rapport à, on va diriger l'activité des personnages. Il faut que si le personnage est en colère, il faut que physiquement on voit qu'il est en colère, donc il va se mettre dans une position. En plus, dans la BD, on a tendance à. Il faut qu'on exagère un petit peu. Là, au cinéma, on peut jouer sur de la musique, sur des mouvements de caméra. La BD ne permet pas. Donc en fait, il faut qu'on trouve des astuces. Souvent, on fait surjouer les personnages. Il faut qu'on fasse le décor. La personne qui nous fait le décor, là où au cinéma il y a quelqu'un qui va faire
décorateur, chef-op, directeur de la photo,
le coloriste fait aussi
caragiste.
Mais voilà, tout ça, et en fait on doit gérer plein de choses, et c'est pour ça aussi qu'en fait dans les auteurs, les dessinateurs de bande dessinée, souvent ils sont assez recherchés dans les jeux vidéo, dans le cinéma et tout, parce que en fait on sait généralement un peu tout faire, là où les autres sont spécialisés dans un seul domaine. Nous, on est capable, on a une vision un peu globale du truc, donc on aime bien nous appeler pour des jeux vidéo, pour des séries du film ou de l'animation, des choses comme ça. On est assez réputé là-dessus.
Et justement, d'expérience, je vois que des dessinateurs de BD peuvent être des illustrateurs, comme ici par exemple. J'ai plus rarement vu des illustrateurs être des bons dessinateurs de BD.
Ah, parce que l'illustrateur apprend pas forcément la narration.
Mais c'est pas c'est un instant figé. Il y a une étape dans le processus de la bande dessinée, enfin dans tous les albums que vous avez produit, c'est la mise en couleur. Et donc comment ça se passe, la mise en couleur? C'est pas vous qui faites la couleur.
Alors j'ai fait la couleur sur Gravé dans le sable là, et sur Monsieur Zibi. Et pour les autres, il y a un coloriste. Et depuis pas mal d'années maintenant, en fait, il y a quelqu'un que je fais souffrir en permanence, donc qui se cache là, en train de mettre la tête dans la capuche, qui est Franck Perrault. Et donc là, il a le teint tout pâle parce qu'il est en train de finir par faire. D'habitude, il s'habille avec des couleurs et tout. Et donc, je sais pas combien d'albums on a fait ensemble.
Facile,
ouais. Donc il a commencé avec moi sur Saint-Exupéry, donc ouais, il y a une dizaine d'années. Et maintenant, ouais, on a facilement une quinzaine d'albums. Donc c'est lui qui fait Cortès, c'est lui qui a fait Faucheur de Vent, c'est lui qui a fait Notre-Dame de Paris, c'est lui qui a fait.
Il fait presque 600 planches. Hein.
À outrance,
forcément,
mais c'est informatisé. En fait, le problème qu'on a dans la bande dessinée, c'est un problème technique, c'est que pour la couleur, c'est très compliqué au niveau du traditionnel. Ça se fait, hein. Il y en a qui font encore du traditionnel, mais il y en a de moins en moins. pour plusieurs raisons. Une question de coût, c'est-à-dire que pour faire la couleur sur les pages, il va falloir faire ce qu'on appelle un bleu
autrefois.
Ou un gris. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on va imprimer sur un autre papier le dessin du dessinateur qu'on va envoyer au coloriste. Et en plus, il va y avoir un film celluloïde plastique avec le noir pour qu'il puisse se repérer. Et lui, il faut qu'il fasse sa couleur là-dessus. Donc ça, déjà, ça a un coût. Il n'y a presque plus personne qui le fait. Même plus de boîtes qui le font en France, je crois. Il faut faire pas, faut repartir ça à je ne sais plus quel pays. Enfin, bon, voilà. Deuxième problématique, c'est la rendue des couleurs à l'impression. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire un scan. Un scan, c'est une photocopie de la page, en gros, enfin une photo de la page plutôt. Et en fait, on a, par rapport au traditionnel, on va toujours avoir une perte au niveau des couleurs. Et c'est terrible parce que quand on a un super original, vraiment, là, par exemple, si je prends l'exemple de Franck, qui travaille à l'aquarelle normalement, il va avoir des couleurs superbes qui vont être des fois un peu flash, un peu tonique et tout, ça va être très beau. Voilà. Dès qu'on va avoir le passage au scan et après à l'impression, tout va retomber. Ouais. Et là, on va perdre beaucoup en qualité. Et c'est terrible parce qu'on a travaillé, on a mis beaucoup de temps. Enfin, je dis on, c'est lui, moi je fais rien, moi je critique moi. Et il fait un super travail. À la fin, en fait, on a tout qui retombe et qui tombe dans des teintes terreuses ou quoi. On perd toute la richesse. Et donc c'est un peu dramatique. Donc maintenant, en fait, on quasiment tout le monde passe en numérique parce qu'en numérique, on n'a pas de différence ou très très peu entre le fichier numérique et l'impression. Donc on peut avoir vraiment des couleurs vives. Ça ressortira vif pareil, et ça c'est vraiment parfait. Et aussi, j'oubliais, quand on a quelqu'un d'un peu pénible comme moi qui demande plein de corrections, en numérique on peut facilement faire les corrections, là où en traditionnel c'est. Des fois c'est même impossible.
Franck, tu veux ajouter quelque chose ? Vous voulez ajouter quelque chose ?
C'est quoi la difficulté du le coloriste.
Le dessinateur. Le dessinateur, bon. Je suis aussi dessinateur, mais avec Cédric, je ne suis que coloriste.
D'accord. Est-ce que le numérique avait une plus grande multitude de coloris possible, des multiplications
aussi,
des,
bien sûr.
Des possibles, des nuances, etc.
Oui, bah en fait, en tout cas, par rapport à l'impression, ouais, c'est sûr. Et puis même, on peut avoir des couleurs qui sont plus vives, plus lumineuses. Souvent, en traditionnel, sur certaines gammes de couleurs, on va être limité. Mais bon, après, on peut faire sans. On peut très bien avoir des super trucs sans avoir certains types de couleurs.
C'est l'art du numérique, quand est-ce ?
Ouais. Partout, oui.
Et est-ce que... Il y a un certain temps, chaque auteur a ses propres coloris.
Ah, c'est une même gamme de couleurs.
C'est toujours le même rouge, c'est toujours le même genre de bleu, enfin le même bleu. C'est ses propres nuances de coloris et qui petit à petit devient célèbre pour ça et ça lui appartient.
Ça arrive. Ça arrive. Par exemple, Bilal, il a
voilà, je pense à Bilal, il y a un bleu particulier qui est un bleu gris très, très élégant qu'on ne retrouve pas ailleurs.
Riyad Satouf, il a pareil.
Oui, des couleurs. Oui,
avec le Pantone. C'est-à-dire qu'en fait, il va. J'étais allé à l'impression d'un bouquin et juste avant, ils avaient imprimé le Riyad Satouf. Riyad Satouf, c'est un auteur qui est très connu maintenant.
L'arabe du futur. Ouais.
Et en fait, donc là, c'était Esther qui avait. Esther.
Oui, Esther.
Ouais. Esther. Ouais. Esther, il y a un bleu particulier. C'est beaucoup avec un bleu. L'imprimeur, elle disait, alors, on a passé un temps à faire ça avec ce bleu-là pour avoir, donc c'était un Pantone particulier, sauf que à l'impression, en fait, on a le Pantone, et puis après, on peut quand même jouer un peu sur, remonter un peu des rouges, des jaunes, et tout. Et en fait, lui, il voulait vraiment, le bleu sort vraiment comme le Pantone. Ils ont passé 2 jours, je crois, C'est-à-dire qu'il a dormi, enfin, c'est une grande imprimerie qui est vers Paris, donc ils ont un studio super, on peut dormir dedans et tout. Et lui, du coup, il a dit, bah, je dors là, et on recommence demain matin. Et donc, ils ont refait le calage pendant pas combien de temps, il n'en pouvait plus. Hein, c'est ça comme une torture pour lui. Après, c'est un super bouquin, et c'est chouette, il a raison.
Ouais, voilà. C'est très, très chouette.
Il y a une couleur sur le bouquin, quasiment. C'est ce bleu, donc là il fallait
qu'il soit parfait. Franck n'a pas pu répondre finalement, donc la difficulté sur la couleur.
C'est Eric.
Oui, d'accord.
Ah oui, ça tient même en un seul mot là.
Parce que les albums de Cédric, rassurons-nous, c'est pas sur les autres albums, Cédric, c'est pour les albums
qu'on concerne.
Travailler
avec. En fait, c'est un travail de confiance. En fait, tu as une planche de bande dessinée, entre le dessin et la couleur, on va créer une planche unique pour que le dessinateur fasse confiance au coloriste et le coloriste au dessinateur. Donc c'est un peu un travail de couple.
Oui, complicité.
Et si ça dure depuis 15 ans, c'est que le couple fonctionne.
Ouais, ça fonctionne.
Donc c'est très exigeant, mais.
Après, on se connaît aussi toujours de plus en plus. C'est-à-dire que moi, je sais ce que je peux lui demander. Je sais là où vont être ses limites. Et je sais ce qu'il est capable de faire. Et Franck, il est vraiment très doué. Et ce qui, du coup, le dessert, parce que je demande toujours plus. Et aussi bien qu'on arrive à un album comme Cortès, qui est vraiment, en termes de couleurs, pour moi, il est assez incroyable, quoi. Je me souviens que 6 mois après la sortie du tome, il vient me voir en me disant je pense que sur Cortès, j'aurais pu aller plus loin. Et là, tu peux aller plus loin sur le tome 2. C'était la question que j'avais pour la deuxième question que j'avais pour toi. Et non, c'est vrai que le truc, c'est que du coup, forcément, on connaît les capacités d'une personne, donc on a envie toujours qu'il donne le meilleur, mais après, le meilleur demande du temps, demande de l'engagement.
Oui, c'est ça.
Et
budgétaire aussi.
Et après, on a un peu, de toute façon, c'est généralement, on est trois dans un album, la plupart du temps, on peut être tout seul, on peut être plus. Mais ça commence par le scénariste. Le scénariste, il va écrire son histoire, c'est son histoire, c'est-à-dire qu'il a sa vision de l'histoire. Généralement, quand il écrit, il a déjà un peu la vision du dessin qui va servir, qu'il est en train d'écrire, et ça il va le confier au dessinateur. Le dessinateur, il va lire le texte, il va le lire déjà lui avec son vécu, avec ses acquis, avec donc il va déjà de toute façon avoir une vision différente de ce qu'a écrit, enfin de ce qu'a imaginé le scénariste la plupart du temps. Mm-hmm. Mm-hmm. Si je me trompe, mais il y a toujours des calages, puisque simplement on est deux personnes différentes.
À chaque fois, ce sont des écritures, des réécritures,
ouais.
En fait.
Il y a toujours une traduction. Et moi, c'est pareil, c'est-à-dire que moi, je vais dessiner, donc lui, il me fait déjà confiance. Après, des fois, ça ne veut pas dire que j'ai toujours raison. C'est pour ça qu'en fait, on fait des échanges.
Il y a débat, des fois, voilà. Bien sûr. Oui.
Moi, je lui envoie un storyboard, après, il me dit oui, non, là, il faut mieux faire comme ça, là, peut-être un peu, etc. Après, je lui envoie un crayonné, on fait pareil. Mais il lâche les choses et parce qu'il y a des trucs où il va dire bon, il a déjà beaucoup travaillé là-dessus et c'est pas comme ce que j'aurais voulu, mais ça va, ça se lit. Genre, des fois ça va être mieux que ce qu'il avait pensé, des fois ça va être moins bien, mais voilà, il faut accepter un certain lâcher prise. Moi je fais ça, je fais le dessin, et après je fais pareil avec le coloriste. C'est-à-dire que le coloriste, lui, il va faire quelque chose, il traduit mon dessin avec de la couleur, parce qu'il y a une traduction aussi par rapport à lui, ce qu'il sait faire, et puis sa vision de la scène. Si Christian il me dit c'est une scène du crépuscule, moi je vais faire un dessin avec peut-être certaines ombres pour montrer qu'il y a un peu de crépuscule, et Franck, lui, crépuscule, il va en avoir fait déjà plein en aquarelle, il va dire oui, mais un crépuscule classique ça m'intéresse pas de le faire, donc je vais faire un crépuscule un peu sympa avec des violets, des oranges et tout. Moi j'aurais jamais pensé à ça, et lui il m'envoie ça, Et la plupart du temps, c'est super, c'est somptueux et tout. Et il y a des fois où il y a un détail ou un truc qui va faire que je vais dire « Ah là, appuie plus les ombres pour que on sente plus les personnages en place. » Ou alors là, par rapport à la narration, il faut mieux mettre ça en valeur plutôt que ça. Donc, rajoute un éclairage ici. Ou quoi. Et donc, en fait, on va faire des ajustements là-dessus. Mais moi, son ciel, lui, fait un ciel violet, ce qui est audacieux. Là, par exemple, cet après-midi, on a bossé un peu ensemble. Et sur le tome 2, il y a une scène de sacrifice avec un temple, au-dessus d'un temple aztèque et tout. Ouais. Voilà. Et il a fait une ombre portée sur le temple. Sachant qu'il ne peut pas avoir d'ombre portée, parce qu'il n'y a rien qui est au-dessus du temple. Donc, sauf que c'est intéressant ce qu'il a fait. Et donc il dit, je sais que ça marche pas, mais c'est intéressant. Et donc il dit, c'est vrai que ça marche pas. Enfin, c'est vrai que
c'est pas possible, mais
effectivement, mais c'est pas mal. Et donc là, il me dit, mais ce qu'on fait, c'est que au lieu que ce soit une ombre portée, ça peut être l'ombre d'un nuage. Et donc, hop, et on va construire l'image comme ça. Et donc au lieu que ce soit l'ombre d'un bâtiment, ça va être l'ombre d'un nuage. Comme des fois, il y a des gros nuages menaçants qui font des ombres très marquées sur le sol. Et bien, ça va être ça. Et on monte des fois le. Donc c'est tout un. Et c'est pareil, Christian aussi, par exemple, je pense à une scène où il y a une tortue, c'est une scène de torture. Et c'est toi qui lui as dit les ombres portées plus.
Plus marquées, enfin, ouais.
Et en fait, moi, je n'avais pas pensé, lui, il y a pensé. Et effectivement, le fait de rajouter ces ombres portées, ça dramatise. Ça dramatise. Oui. Donc en fait, chacun amène. Son petit truc, ça, avec ses connaissances à lui, et du coup on en fait une œuvre commune. Et donc voilà, ça implique de faire chacun faire un peu les concessions, mais à la fin on arrive à faire un objet qui est normalement plutôt sympa. Quoi.
Voilà. Cédric nous a fait le plaisir d'apporter quelques originaux, parce que là à l'époque vous travailliez encore sur papier, c'est plus le cas maintenant.
Moins, en fait, moins, ça dépend. Là maintenant, sur les projets que je suis en train de faire en ce moment, c'est du numérique, mais il y a d'autres projets qui arrivent et qui vont être en traditionnel.
D'accord, ah oui. Ouais. Okay. Ouais. Et l'apport du numérique par rapport au traditionnel.
Un peu comme pour la couleur, par rapport aux retouches surtout.
Oui, ça c'est plus facile.
Là, c'est super, ça va super vite. Là où avant, quand on retouchait sur un original, il fallait faire un collage, découper, mettre du blanc et après au scan, retravailler. Et c'était pour retravailler un trait, il fallait 3 heures. Et là maintenant, en numérique, en 3 secondes, c'est fait. En fait. Coup de gomme numérique, hop, on refait le trait, c'est fini. Et c'est le même travail. Hein, c'est le même. Je travaille avec un stylet, donc c'est un stylo, ce stylet en plastique. Et en fait, c'est exactement la même gestuelle, c'est exactement le même travail, sauf que ça permet des choses en plus, des corrections, et puis il n'y a pas le scan, ça va un peu plus vite, on n'a pas nettoyé les scans, etc. Donc il y a une facilité comme ça. Et puis moi, le truc, c'est que j'étais très réticent à passer en numérique parce que j'aime beaucoup le contact du papier, j'aime beaucoup l'encre, j'aime beaucoup ce que ça transmet. Et puis quand on travaille en traditionnel avec du papier et de l'encre, moi, je trouve qu'il y a un côté méditation. Enfin, j'en ai déjà parlé de la méditation tout à l'heure, mais vraiment, on se met dans une bulle. Il y a moins ça en numérique. Enfin, moi, je le retrouve moins ça. C'est-à-dire qu'en numérique, c'est une dalle un peu plus froide. Et en fait, très vite, on s'en lasse presque. Enfin, on va regarder ailleurs. Il y a moins cette ambiance-là. Peut-être qu'il n'y a pas aussi le son du crayon. Des petites choses comme ça qui manquent là-dessus, mais après on y gagne sur plein d'autres niveaux. Et aussi, moi maintenant je voyage beaucoup parce que j'ai eu la chance d'avoir pas mal de traductions, et donc je passe pas mal de temps à l'étranger, et de pouvoir travailler avec je travaille sur un support comme ça, moi, du coup je peux l'amener dans l'avion, je peux travailler à l'hôtel et tout, donc pour moi c'est vraiment. Ça me sert beaucoup, parce que sinon je pouvais rien faire quasiment, à part du storyboard. Le storyboard, on peut le faire une fois dans l'album, ça dure un mois de travail, et puis après, c'est fini aussi. Donc il faut amener son matos, ses grandes planches.
Oui, j'en sais autre chose.
De film.
Oui, Cédric.
Est-ce que ça a changé les postures dans lesquelles tu te tiens pour dessiner, le fait justement
Maintenant, je travaille plus dans mon canapé. Avant, je travaillais vraiment sur ma planche, sur un bureau, quoi. Je travaille plus n'importe comment. Donc, je pense que le dos est penché, quoi, aussi, plus d'ailleurs.
Mais du coup, la méditation, oui, pour être en état de méditation, faut pas être avachi dans un canapé.
Eh ben non, parce que sinon, en fait, ça appelle la sieste.
Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et sinon, vous pourrez, en regardant les originaux, poser aussi vos questions. Oui.
Sur le thorax, est-ce qu'à force de dessiner tout le temps, il y a des problèmes à la main, aux muscles,
des tendinites, des trucs comme ça, c'est souvent. Ouais. Moi, j'ai, pour le moment, je suis encore assez jeune, hein, donc j'ai encore pas ça. Mais ouais, j'ai beaucoup de collègues qui ont eu des trucs. En fait, ce qu'il faut, c'est toujours. Parce que c'est des petits mouvements. Et la répétition des tout petits mouvements font qu'au bout d'un moment, ça se coince. Et donc, il faut.
Est-ce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de dessiner avec une souris?
Je vois la possibilité de tout faire. Mais,
On en connaît un dessinateur qui dessine à la souris, sur Illustrator.
Ah oui, oui, bah oui, Illustrator, ouais, bien sûr. C'est pensais pas, mais il y a des dessins qui sont faits avec des logiciels. Et il y a un logiciel où c'est, il s'appelle Illustrator, mais il y a d'autres logiciels qui utilisent le même système, c'est des courbes de Bézier, c'est-à-dire c'est des calculs de courbes. Et en gros, on clique sur un point, on tire des tangents,
oui, en quelque sorte.
Et ça va faire des courbes comme ça. Et il y en a qui vont faire des dessins tout comme ça. Après, on peut mettre de la couleur, on peut. Et donc ça, effectivement, c'est la plupart du temps, ils vont faire ça à souhait. Donc c'est possible. C'est un travail qui est un peu particulier, mais ouais. Et moi, je connais un dessinateur, un grand dessinateur, hein, un copain, mais on a mangé plusieurs fois ensemble, c'est Alberto Varanda. Il y en a qui connaissent. Et en fait, il a fait tout un bouquin. Il avait commencé à faire tout un bouquin sur des vampires, tout en peinture numérique, mais super beau, vraiment. À table, il disait, j'ai fait les 10 premières illustrations, j'ai fait à la souris. Et en fait, ça fait des peintures à l'huile. Vraiment, c'est incroyable. C'est léché comme une peinture à l'huile. Il a fait ça à la souris parce qu'en fait il savait pas que les stylets ça existait. Il savait pas que les stylets, c'est-à-dire les stylos numériques, maintenant tu dis des. Voilà. Il savait pas que ça existait à l'époque. Et donc il avait fait ça à la souris. Et là,
il se croyait avant-gardiste.
Il a dit quand j'ai découvert les stylets, ça m'a fait gagner du temps. mais le travail est fou. Hein. Là, on se dit, comment il a fait ça à la souris?
Parce que la souris, c'est pas naturel comme prise. Les stylets, les stylets sur les tablettes numériques sont vraiment très très bien faits. C'est-à-dire qu'en fait, ça prend la pression, il y a vraiment la sensation de l'inclinaison, la pression. On a vraiment vous choisissez votre outil, etc. Ouais. Vous avez vraiment l'impression. Je vous propose de regarder les dessins. Hein.
C'est génial.
Merci d'être venu, c'est chouette.